Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Être responsable d'une brigade, c'est pas facile. En plus d'être en charge de milliers de soldats, il faut s'assurer aussi que toutes les pièces fonctionnent bien ensemble. C'est encore plus difficile si la brigade se prépare pour un déploiement international puisque le groupement tactique des forces terrestres avancées en Lettonie s'agrandit pour devenir une brigade. Le colonel Cédric Aspiro, commandant du 5e groupe brigade mécanisée du Canada et premier commandant sur le terrain de la brigade des forces terrestres avancées en Lettonie, va nous expliquer comment il se prépare à la tâche. Bienvenue au balado!
Bonjour Adam, très heureux d'être ici ce matin.
Donc, je regarde juste avant que la Russie a fait l'invasion de l'Ukraine. Je me rappelle avoir eu une discussion avec quelqu'un, puis il disait « Ouais, ça a l'air, tu sais, aux nouvelles, il y a des soldats qui arrivent, peut-être que la Russie va faire une invasion. » Puis je suis comme « Ah, no way que ça va arriver, ça se peut pas. » Puis là, le lendemain, là, c'est arrivé. Puis là, on se dit des fois, des choses qu'on peut pas s'attendre à y arrivent. Qu'est-ce qui arrive si quelqu'un, un adversaire, essaie de traverser votre brigade?
Ah, on va être prêt. De un, on va être très prêt.
Good.
C'est l'avantage de, un, faire partie d'un plan de l'OTAN, où est-ce qu'on n'a pas juste les orientations, mais on a la force d'une organisation au complet qui est en arrière de l'organisation. L'autre chose, c'est que nous sommes sur le terrain. Nous sommes en Lettonie. Nous sommes avec les Lettons. Nous sommes une organisation multinationale, mais surtout avec les Lettons, sur leur terrain, à laquelle on a la mission de protéger et de dissuader toute intention de traverser cette frontière-là, premièrement. Mais deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui traverse la frontière, être capable de défendre le pays. C'est un avantage énorme d'être sur le terrain et d'être capable d'effectuer ces reconnaissances-là, développer le plan sur le vrai terrain sur lequel on pourrait combattre. Puis ça, c'est un message important qu'on passe aux troupes, que ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un win rate avec un index à la fin, puis que c'est fini, puis tout le monde retourne à la maison. Si on doit exécuter notre tâche jusqu'à défendre le pays, la planification doit être détaillée pour être capable d'exécuter notre mission puis de défendre avec les Lettons ce pays exceptionnel.
Officiellement, c'est quoi la mission que vous avez?
Donc, principalement, notre mission va être de dissuader toute force opposante de traverser la frontière et d'assurer l'intégrité de la frontière lettonne. Par la suite, si on regarde à court terme, ça va être de mettre en place cette brigade-là, mettre en place la connectivité requise, mettre en place les infrastructures, mettre en place les troupes qui vont devoir opérer à travers la brigade et s'assurer d'exécuter la mission. La troisième partie qui va être très intéressante pour un quartier général, ça va être de s'intégrer dans les plans de l'OTAN. Comme on le sait, la façon que c'est organisé, il y a un corps multinational qui est en Pologne, qui, lui, a sous ses ordres plusieurs QG divisions, dont un quartier général multinational leadé par les Danois à Riga, en Lettonie, qui, lui, va avoir deux brigades, dont notre brigade et une brigade lettonne. Donc, s'intégrer à cette nouvelle organisation-là va être un défi exceptionnel car ça vient avec une nouvelle chaîne de commandement, mais aussi des nouveaux plans extrêmement importants à développer.
Donc, vraiment, l'environnement, là, c'est un environnement multinational. On travaille avec des alliés sous l'OTAN. Vous allez avoir des alliés de l'OTAN intégrés dans votre brigade. Où est-ce que cette brigade-là rentre en termes du plan d'OTAN?
La brigade va maintenant faire partie d'un plan régional. Comme on le sait, actuellement, il y a beaucoup de plans nationaux. Donc, l'Estonie a son plan, Lituanie a son plan, la Lettonie a son plan. Puis, il y a une intégration qui est faite, mais une intégration qui n'est pas faite autant que l'OTAN est capable de le faire. Fait que donc, il y a un plan qui a été développé dans la dernière année par le corps, qui a été passé à la division, puis que nous, comme brigade avancée, nous allons pouvoir s'intégrer à ce plan-là et développer notre propre plan au niveau de brigade, puis s'assurer qu'on effectue une dissuasion régionale, puis si cette partie-là ne fonctionne pas, être capable de faire une défense régionale.
Le processus de planification opérationnelle incorpore des choses comme analyser notre mission, décider comment qu'on va s'en approcher. Qu'est-ce que vous avez découvert lors de votre examination de cette mission-là?
Oui, une des parties importantes, c'est de s'assurer qu'on est capable d'intégrer l'équipe pour être capable de faire une planification multinationale, mais aussi être capable de s'assurer qu'on ne parle pas juste une langue canadienne. Puis je m'explique, être capable de parler la langue OTAN. Puis ça demande un effort comme nous, comme nation qui s'occupe de la structure principale, s'assurer que l'ensemble des nations qui font partie de l'équipe comprennent ce qu'on veut faire. Puis par exemple, juste la façon qu'on écrit nos ordres. On a une façon canadienne d'écrire nos ordres. On a une structure qui est assez rigide. Par contre, à l'OTAN, il y a un format un peu différent où est-ce que la séquence est un peu différente qui, pour nous, a été facile de faire ce changement-là. On s'est entraîné à le faire, on s'est pratiqué à le faire, puis on a décidé d'y aller avec un côté, avec des ordres écrits format OTAN. L'autre chose, comme tu l'as mentionné, chacun des pays sont représentés à l'intérieur du quartier général. Fait qu'eux-mêmes vont nous aider dans la planification des plans et des ordres qu'on va écrire. Notre chef des plans vient du Danemark. On a des gens de la Pologne dans l'équipe des plans, par exemple. On a aussi des Canadiens. Fait que juste cette partie-là, qui est une mini-partie du quartier général, mais qui est une partie essentielle, va nous aider à faire cette traduction-là et s'assurer que tout le monde a une compréhension commune des intentions à faire.
Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas exactement qu'est-ce que ça a de l'air, une brigade. Est-ce que vous pouvez peut-être nous décrire qu'est-ce que ça a de l'air du 5e GBMC et comment c'est composé?
Oui, actuellement, le 5e groupe brigade mécanisée du Canada est situé à Valcartier. On a environ 4000 personnes. 4000 personnes, c'est divisé en 8 unités. Chacune des unités a environ 500 à 600 personnes, là, en moyenne. Fait qu'on a 3 bataillons d'infanterie, un régiment blindé, un régiment d'artillerie, un régiment d'ingénieurs et un bataillon de service qui assure la logistique de tout ça. Et qui encadre tout ça, on a un quartier général de brigade et un escadron de transmission qui s'occupe que l'ensemble des unités parle à tous et chacun. Donc, c'est la façon qu'on est généralement organisé pour une brigade canadienne. Maintenant, en théâtre, la façon qu'on va évoluer vers l'augmentation de cette brigade-là, c'est que normalement, en théâtre, on a des groupements tactiques. Un groupement tactique, c'est la base, le bloc de base pour une armée qui est au combat. Donc, un groupement tactique est construit et développé pour exécuter une tâche spécifique. Puis cette tâche-là va nous permettre d'identifier qu'est-ce qu'on a besoin, mais à la base, un groupement tactique, c'est basé sur une unité d'infanterie ou une unité blindée qui va être renforcée par l'autre, donc une unité blindée renforcée par l'infanterie ou vice-versa. Et par la suite, qu'on va y rajouter des unités essentielles pour la mobilité, par exemple des ingénieurs ou qu'on va les augmenter avec de l'artillerie et de la logistique. Un groupement tactique, donc, c'est comme un mélange d'unités de brigade qui est déjà mis ensemble pour être capable de combattre dans multiples environnements. Puis la grosseur est déterminée tout dépendant du contexte et de la tâche. Donc, on peut avoir des groupements tactiques de 400 personnes comme on peut avoir des groupements tactiques de près de 1000 personnes, puis c'est ce qu'on a actuellement, là.
Et aussi, en termes de votre équipe, votre brigade, la 5e brigade, c'est une brigade de régule, mais j'imagine qu'il va y avoir des réservistes qui vont être impliqués là-dedans aussi.
Oui, exact. Puis on le fait un peu différemment cette année. Puis je suis extrêmement heureux de voir le déroulement de tout ça jusqu'à maintenant. Comme on le sait, la 5e brigade fait partie de la 2e division canadienne qui, elle, a sous son commandement 2 brigades de réserve. Fait que la façon qu'on a voulu faire ça cette année, au lieu de juste pousser des positions, dire OK, demander à la réserve, veuillez remplir ce groupe de positions-là, on a demandé, on a fait un sondage à l'ensemble des réservistes disponibles qui étaient prêts à se déployer dans le contexte de l'opération réassurance et quand. Ça, c'est 2 questions très importantes, car il y en a qui ont réussi à se rendre disponibles plus tôt que juste le déploiement ou juste l'entraînement pré-déploiement. Fait que ça demande un travail d'état-major supplémentaire où est-ce qu'on doit chercher plus d'opportunités, mais être capable de voir d'autres options que les options traditionnelles que de protection rapprochée d'un établissement ou d'un building, mais vraiment des intégrer à l'intérieur des unités régulières. Fait que ceux qui pouvaient être disponibles dès janvier, on avait le temps de les qualifier sur des VBL. On a le temps de les qualifier sur diverses plateformes qui, normalement, le réserviste n'avait pas cette qualification-là. Fait que ça nous permet d'intégrer les réservistes dans l'ensemble de la brigade, pas juste dans des fonctions spécifiques. Puis ça, je vois ça comme un gain à long terme. Car le but de ça, c'est de rendre l'expérience intéressante pour tous et chacun qui fait partie de la brigade, puis faire partie d'un régiment ou d'un bataillon de réguliers, puis vraiment faire partie de l'équipe, c'est un investissement à long terme. On l'a vu dans les années de l'Afghanistan, puis j'ai vraiment l'intention de le revoir cette année encore, où est-ce qu'au début, tout le monde, régulier et réserviste, tout le monde arrive avec un différent niveau d'expérience. Mais après une montée en puissance, après quelques mois d'entraînement et surtout après un tour, le niveau d'expérience est le même. Puis on doit l'utiliser, ça. On doit saisir ces opportunités-là puis être capable de voir à quel point que la contribution des réservistes est essentielle pour, un, nous aider à continuer à faire la mission puis être capable de soutenir cette mission-là à long terme. Puis deux, bien, de donner l'intérêt à certains des réservistes qui se sont joints à l'équipe de vouloir transférer dans la régulière et de faire partie de l'équipe de la 5e brigade ou peu importe l'unité dans laquelle ils veulent faire partie. Fait que il faut le voir pas juste pour un gain à court terme, mais un investissement à long terme. L'autre chose qui est essentielle, c'est de s'assurer que l'expérience est bonne pour l'ensemble des membres réguliers et réservistes, car lorsque tout le monde va retourner à la maison, on sait que les gens se parlent et se parlent rapidement. Il ouais, faut que ça soit positif pour tous et chacun, puis que les gens aient le goût de se rejoindre à l'équipe et continuer cet effort-là. Puis c'est pas un effort de régulier, c'est un effort d'armée. On dit une armée, puis on y croit fortement, puis on va être capable de le faire arriver.
Puis c'est vraiment pas des farces parce que j'ai vérifié la brique moi-même. J'étais juste curieux comment est-ce que ça avançait. Puis je pense que des 1600 postes comblés en ce moment, il y a à peu près 400 réservistes qui ont pris des places. Donc ça avance, puis c'est vraiment... Ça fonctionne, c'est sûr.
Oui, puis ils ont été intégrés à part entière, à l'intérieur des bataillons, des régiments. C'est extrêmement beau à voir, puis j'ai d'excellents commentaires là, sur des troupes sur le terrain.
On a combien de troupes avec le groupement tactique qui est là en ce moment? Puis comment est-ce que ça va évoluer au niveau de la brigade pour nous donner qu'est-ce qu'on a de besoin en ce moment?
Oui, c'est une bonne question. Donc, on a environ 1500 troupes déployées actuellement. Puis ça, ça inclut tout ce qui est contribution internationale. Avec l'augmentation du quartier général de brigade et des troupes de brigade telles que l'escadron de reconnaissance, certains éléments de guerre électronique et certains drones, on va dépasser 3000 personnes, surtout vers novembre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le nombre de personnes, mais aussi on va redistribuer les troupes qui sont déjà au sein du groupement tactique pour s'assurer qu'ils sont au bon niveau pour au niveau de brigade. Je m'explique. Par exemple, l'artillerie, à ce moment-ci, fait partie du groupement tactique. Mais avec l'arrivée d'un quartier général, nous allons pouvoir remettre l'artillerie au niveau que normalement ou auquel il opère. Doctrinairement, un régiment d'artillerie va se rapporter au quartier général de brigade et sera redistribué au besoin au groupement tactique qui en a besoin. Fait que ce qui va arriver, c'est que le groupement tactique actuel va réduire un peu car il n'y aura plus de troupes de brigade au sein de son unité, mais il va pouvoir plutôt se concentrer sur être un groupement tactique puis opérer au niveau du groupement tactique. Puis notre quartier général va reprendre le commandement des troupes de brigade puis je vais pouvoir exécuter la planification au bon niveau et de fournir le soutien requis au groupement tactique qui va en avoir besoin, incluant les nouveaux qui vont se joindre à nous.
Donc, tout justement, en parlant des nouveaux qui vont se joindre, quelles nations vont supporter la brigade que vous allez monter en puissance et qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes de contributions individuelles des pays?
Un des gros changements, on sait déjà qu'on a 11 pays qui contribuent au sein du groupement tactique actuel. Un des nouveaux contributeurs majeurs, c'est le Danemark. Le Danemark qui, eux aussi, vont fournir un groupement tactique d'environ 600 à 700 personnes. Ils ont déjà construit leur camp juste à côté de la Dasie. Puis, ils vont faire partie intégrale de la nouvelle brigade qu'on est en train de mettre en place. Par la suite, une des excellentes nouvelles qu'on a, c'est que, comme on le sait, le 7 mars 2024, la Suède a joint l'OTAN. Puis, ils ont décidé et annoncé qu'ils allaient faire partie de notre brigade multinationale et qu'ils vont se joindre à la hauteur d'un groupement tactique eux aussi. Fait que ce qui va arriver, c'est que le premier 6 mois dans lequel on va se déployer, donc à partir de... Nous, on se déploie à partir de juin. En août, les Danois vont contribuer au groupement tactique jusqu'en décembre. Et en janvier, ils vont être remplacés par un groupement tactique suédois, qui est une excellente nouvelle car ça va être leur première mission en tant que membre de l'OTAN et ils vont la faire avec nous. Donc, on est tout à fait honorés et nous avons hâte de travailler avec les Suédois.
Et avec tout cet établissement-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre en termes d'entraînement? J'imagine qu'on va avoir des chances de s'entraîner avec nos alliés, etc.
Ça, la beauté de maintenant s'intégrer au plan de l'OTAN autant qu'on va le faire, c'est qu'on va avoir des nouvelles opportunités où est-ce que nous allons pouvoir s'entraîner avec les troupes qui sont au nord et au sud, donc les troupes estoniennes soutenues et supportées par les Anglais, et en Lituanie, qui, eux, sont avec les Allemands. Fait que ça va donner des opportunités supplémentaires aux troupes qui vont se déployer sur l'opération Réassurance. Il y a beaucoup de gens qui se sont déployés avant, qui ont fait partie de l'opération Réassurance, qui se sont entraînés à DASI, qui est un excellent secteur d'entraînement. Mais là, on va pouvoir avoir des opportunités pour être capable d'aller s'entraîner dans d'autres pays qui font partie de la région. Ça ne sera pas juste une expérience militaire exceptionnelle, parce que ça donne une opportunité de s'entraîner avec d'autres pays, voir du nouveau équipement, un nouveau terrain, mais aussi on va s'assurer de donner du temps aux troupes qui se déploient pour être capable de visiter ces nouveaux pays-là. Il faut être capable d'apprécier l'Europe et le terrain dans lequel nous sommes, puis être capable de voir la beauté de ces pays-là. Fait qu'on va s'assurer de donner le temps aux troupes de visiter les pays tout en ayant l'expérience militaire exceptionnelle.
C'est quoi votre plan pour l'entraînement? Une fois que les troupes sont arrivées, quelles tâches est-ce que vous voyez qu'ils vont faire pendant qu'ils sont là?
Surtout pour notre première rotation, on dit on roto zéro, c'est une roto zéro de quartier général, mais aussi de troupes de brigade. Pour notre rotation, lorsqu'on va arriver dès juin, il va y avoir de la prise en charge d'équipement. Il y a beaucoup de navires qui sont maintenant poussés vers l'avant du Canada, vers la Lettonie, avec des pièces d'équipement qu'on va devoir prendre en charge et de s'assurer que tout fonctionne et qu'on est capable de les utiliser rapidement. Il va y avoir aussi beaucoup d'entraînements individuels. On parlait de nouvel équipement, que ce soit drone, nouveau pistolet, nouvelle pièce de communication que nous allons devoir tester en théâtre puis s'assurer que tout le monde est très habile à les utiliser. Puis, il va y avoir l'intégration de l'ensemble des nations qui vont être là, qui va être aussi importante. Puis, il va y avoir l'entraînement collectif. Fait que l'entraînement collectif qui va nous permettre de travailler ensemble, exécuter des chantiers ensemble, puis d'être capable de faire des tests d'équipement comme groupement tactique, mais surtout comme brigade. Tout mettre ça en place là, dans les premiers mois va nous garder occupés, ce qui va nous amener à un exercice majeur en novembre, où est-ce que ça va être le premier exercice de brigade, où est-ce qu'on va maximiser l'ensemble des troupes qui vont être déployées puis être capable de faire les opérations tous ensemble.
Et je dirais qu'il y a beaucoup d'opportunités d'apprentissage, de peut-être apprendre qu'est-ce qu'un autre pays fait très bien, que peut-être on fait moins bien et vice-versa.
Exactement. Puis ça se fait à plusieurs niveaux. Ton exemple est excellent. Où est-ce qu'il y en a qui vont partager leur expertise sur leurs techniques d'infanterie, l'utilisation des chars? Il y a plusieurs pays qui vont apporter des Léopard 2. Fait qu'on a plusieurs pays qui génèrent des Léopard 2, mais ça ne veut pas dire qu'on l'utilise tous exactement de la même façon. Ça, c'est au niveau tactique. Au niveau du QG de brigade, si on regarde les nouveaux systèmes qu'on met en place, je regarde le système SITAWARE, qui est un système de partage d'informations et de connaissances situationnelles et de planification. Nous, on a commencé à l'utiliser cette année, mais il y a plusieurs pays de l'OTAN, tels que le Danemark, l'utilisent depuis très longtemps, puis on apprend de eux. On apprend de leur façon qu'ils l'ont utilisé, puis la façon qu'ils l'ont mis en place. Fait que ces opportunités-là multinationales font juste augmenter notre capacité opérationnelle et améliorer notre connaissance sur notre métier à tous les jours.
Donc vraiment, on a des troupes qui rentrent en théâtre, ils font des entraînements individuels, collectifs, sur de nouveaux équipements, on installe l'infrastructure, on crée une structure d'une brigade. Il y a beaucoup de pièces qui bougent en même temps. Là. Ça doit être assez difficile quand même.
Beaucoup de pièces qui bougent, beaucoup d'entraînement, mais une des choses qui est vraiment importante à considérer, puis un des changements, c'est que dans la planification, il y a aussi la préparation de l'exécution d'un vrai plan. On parlait d'un plan régional qui va être mis en place, un plan de l'OTAN, mais les troupes, lorsqu'ils vont s'entraîner, c'est pas comme on a connu à Wainwright. Ce n'est pas une carte inventée avec un ennemi inventé. Nous allons nous entraîner sur le terrain sur lequel il pourrait être utilisé pour exécuter une vraie tâche, une vraie mission. Donc, les reconnaissances et les exercices que nos troupes vont faire vont être des vraies reconnaissances où est-ce que la position à laquelle ils vont aller voir pour stationner leur véhicule blindé pourrait être une vraie position qui pourrait être utilisé dans le contexte de l'exécution d'un plan de l'OTAN. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va joindre une équipe extrêmement professionnelle. Les Lettons qui sont là sont extrêmement compétents et professionnels, puis ils connaissent très bien le terrain.
Ouais.
Puis ils vont être capables de nous apprendre et de nous vraiment nous aider à développer notre plan et en faire partie. Fait qu'on a extrêmement hâte aussi de travailler avec les Lettons sur le terrain, puis être capable de développer notre expertise ensemble.
Puis on sait aussi qu'en termes de doctrine, il n'y a pas grand-chose de nouveau nécessairement en termes de préparation pour un environnement comme celle qu'on regarde.
La doctrine, des fois, on l'oublie. Mais il y a beaucoup de réponses dans notre doctrine. Ouvrir les vieux livres verts, là, des fois, ça fait du bien. Mais l'armée canadienne est excellente pour ça. On écrit. On écrit, puis c'est pas juste une question de leçons apprises, mais qu'est-ce qui a été appris au fil des années dans les conflits majeurs avant nous? Ça a été écrit, puis ça a été bien écrit. Fait que, tu sais, par exemple, on parle de QG dispersé, on en parle à différents niveaux. Bien, un QG dispersé, c'est un moyen de protéger un quartier général de brigade. C'est une des façons de protéger un quartier général de brigade. Puis c'est écrit dans notre doctrine. Les outils qu'on a pour accomplir cette protection-là, par exemple, ont évolué, ont changé. Mais il y a encore des choses qui sont excellentes, là. Je veux dire, le téléphone de campagne, qui était très, très loin dans les quartiers maîtres, on commence à les ressortir.
C'est ça.
Parce qu'il n'y a aucune signature de communication qui peut être détectée. Fait que il y a des choses qu'on faisait avant, qu'on a oubliées, qu'on doit juste ramener puis mettre de l'avant. En Afghanistan, les quartiers généraux étaient très concentrés. Mais ce n'était pas juste une question de confort. C'est une question, premièrement, de protection. Où est-ce qu'on pouvait être sur une bulle radar? Où est-ce qu'on avait une protection qui était très définie? C'est de même que ça fonctionnait. Dans un contexte, comme on voit en Ukraine actuellement, ben la bulle radar fonctionne moins. Fait que c'est pas la meilleure façon de protéger les quartiers généraux. On voit que la dispersion est une meilleure façon qui assure la résilience des quartiers généraux, qui assure que s'il y a une partie qui ne fonctionne plus, ben le reste du quartier général est capable de fonctionner et de continuer à commander et contrôler les opérations. L'autre partie qu'on doit considérer, c'est que la protection n'est pas juste une question de balistique. C'est pas juste l'artillerie qui pourrait nous tirer dessus. Ça pourrait être du sabotage, mais il y a aussi comment qu'on se camoufle dans un spectre où est-ce qu'on dit que le terrain de bataille est transparent, où est-ce que tu as des satellites qui voient ce qu'on fait, où est-ce qu'on voit des capteurs de communication qui voient les signatures de communication, comment qu'on se camoufle dans qu'est-ce qui existe déjà. Fait que ça, c'est essentiel à penser, mais justement encore, camouflage fait partie de protection.
C'est ça.
Et c'est juste une autre façon de le faire. Fait que retourner à la doctrine et l'adapter avec la situation d'aujourd'hui est essentiel à faire. Mais la solution n'est pas seulement dans une façon de faire, mais c'est un ensemble d'outils qu'on doit mettre en place pour s'assurer qu'on est capable de commander et contrôler jusqu'à la fin.
C'est pas souvent qu'on a une brigade déployée. Vous allez être le commandant. Chaque personne a leur propre style, leur propre façon à faire. C'est quoi votre philosophie en termes d'approcher le commandement, surtout à ce niveau-là?
Ouais. Donc, quand je suis arrivé à la 5e brigade, il y avait des choses qui étaient importantes pour moi, telles que s'assurer que chacun des soldats sont l'expert dans leur métier, s'assurer qu'ils sont compétents dans tout ce qu'ils font puis qu'ils ont l'équipement pour le faire. Puis par la suite, les intégrer au niveau de brigade pour être capable de devenir un groupe brigade mécanisé. Parce qu'un groupe brigade mécanisé n'est pas 4000 individus. C'est pas non plus 10 compagnies. C'est pas non plus 8 unités, mais c'est une brigade. Puis ça, pour devenir une brigade, on doit être capable de s'intégrer à tous les niveaux. Fait que c'est quelque chose que je vais amener avec moi aussi, s'assurer que je donne le temps, l'équipement à chacun des soldats qui va se déployer d'être l'expert dans qu'est-ce qu'ils font. Par la suite, c'est les intégrer et donner leur opportunité de s'entraîner et de commander. Puis ça, je l'ai vu à travers les années, là, lorsqu'on donne l'opportunité et l'espace à tous les soldats pour être le meilleur d'eux-mêmes, ils deviennent le meilleur d'eux-mêmes. Puis c'est vraiment mon intention de leur donner cet espace-là. T'sais, on parle de commandement par mission, mais le commandement par mission, est à la base, c'est faire confiance à nos troupes et les laisser aller. Puis oui, effectivement, sur un encadrement puis avoir une intention claire, je n'ai pas l'intention de faire la job de commandant de section, sinon je n'ai pas le temps de faire ma job de commandant de brigade. Mais de vraiment s'assurer qu'ils ont toutes les ressources puis les capacités pour faire leur travail puis de donner le meilleur d'eux-mêmes.
Et comment est-ce que ça se traduit en termes d'entraînement une fois déployé?
Je m'assure de, on dirait, pousser la machine. Donc, s'assurer là, qu'on teste les limites de chacune de nos capacités, que ce soit en communication, que ce soit système d'armes, pour voir jusqu'à où on est capable d'aller pour connaître vraiment les vraies limites de notre équipement. Lorsqu'on connaît ça, on est capable de bien utiliser l'ensemble des outils que nous avons à notre disposition. Et ça, c'est ultra important de le faire. Tout en construisant la confiance aussi, l'équipe doit avoir confiance en leur équipement. Puis des fois, ils n'ont pas eu l'opportunité de pousser les limites de leur équipement puis de voir jusqu'à où ils sont capables d'y aller.
Mm-hmm.
En faisant ça, on va être capable de développer une connaissance avancée de l'équipement qu'on a avec nous, mais aussi une confiance des gens entre nous, entre eux, puis aussi une confiance envers l'équipement.
On voit souvent que, surtout en termes de, encore une fois, leadership ou de dirigeants, on se trouve à des fois représenter l'institution de plus en plus parce qu'on tombe sur la politique puis notre responsabilité envers l'institution. Mais aussi se connecter avec les troupes et exercer du leadership, des fois, ça requiert une certaine connexion personnelle, de prendre le temps de parler avec une personne puis de leur voir comme une personne. Comment est-ce que vous gérez, genre, les deux parties d'être une personne dans un poste de leadership comme un commandant de brigade?
Oui, c'est une excellente question parce qu'on se le pose tout le temps que lorsqu'on devient commandant, qu'est-ce qu'on doit adapter ou si on doit changer des choses. Mais j'ai tout le temps considéré que les commandants, ou dans mon cas, on n'est pas là pour qu'est-ce qu'on devrait être, mais c'est pour ce que nous avons fait ou qu'est-ce que nous avons toujours été. Pour moi, c'est de rester le plus personnel et ne pas changer. J'aime aller avec les gens, j'aime construire des équipes et j'aime m'assurer que les gens qui ont le potentiel sont capables de rayonner autour de moi. Donc, c'est important pour moi de m'entourer de gens qui vont me compléter, des gens qui pensent différemment que moi, des gens qui vont être capables de me sortir de ma zone de confort puis d'être capables de m'amener, de nous amener plus loin, pas de m'amener plus loin, mais de nous amener plus loin comme brigade. Fait que ça, c'est surtout dans mon état-major rapproché. Mais pour les troupes, pour mes commandants, c'est vraiment de leur donner l'espace pour commander puis de rayonner parce qu'on a des gens extrêmement compétents qui vont se déployer dans la prochaine année, peu importe le pays. Il faut réaliser qu'on doit donner l'opportunité à la qualité des gens de démontrer puis d'être capable d'élever la brigade dans son ensemble.
Donc, peut-être pour terminer, ça fait à peu près un an que vous êtes un commandant de brigade, vous préparez pour un déploiement. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier qui vous a marqué ou que vous trouvez, c'est comme, wow, ça c'est vraiment la meilleure partie de qu'est-ce que je fais en ce moment?
Ouais, quelque chose là, qui m'a marqué dans les dernières années puis que j'ai vu vraiment dans la dernière année, c'est à quel point que nous avons des gens compétents au sein des Forces armées canadiennes. Puis je le dis pas, pour être cheesy, rien. Je le dis avec toute sincérité. Des fois, on parle les différentes générations. La prochaine génération n'est pas comme la nôtre, puis elle est différente. En fait, je considère que la prochaine génération est meilleure que nous étions. Je considère que les lieutenants d'aujourd'hui sont meilleurs que quand nous étions lieutenants. On leur donne du nouvel équipement, puis ils vont amener ce nouvel équipement-là à un niveau que même ceux qui l'ont développé n'y ont pas pensé. C'est pour ça que moi, voir cette nouvelle génération-là, voir les troupes de la brigade, j'ai aucune inquiétude de leur donner du nouvel équipement. En fait, j'ai hâte de leur donner du nouvel équipement parce que je sais qu'ils vont amener ça à un niveau plus loin que qu'est-ce que ça a été designé pour faire à la base. Puis de voir à quel point que nous avons des gens innovateurs, des gens brillants, avec le cœur vraiment à la bonne place pour être le meilleur d'eux-mêmes, c'est exceptionnellement à voir, puis je me sens privilégié comme commandant de le voir.
Bon, ben, je pense que c'est une excellente réponse, puis on va arrêter ça là. Merci beaucoup d'avoir participé au balado, là. C'était excellent.
Merci beaucoup, Adam.
Ça, c'était le colonel Cédric Aspiro, commandant du 5e groupe brigade mécanisée du Canada et le commandant de la nouvelle brigade des forces terrestres avancées en Lettonie. Et moi, je suis Captain Adam Horton. Prenez soin de vous.